Chers amis, Hachem Alechem Tihyou Leorechem Tovim Shanim Naimim. Nous allons essayer d'analyser dans les parashiot où la Torah retrace la vie des Avot HaKedoshim, Avraham et Sarah Imenu, d'essayer de comprendre leur relation, la relation particulière qu'il y a entre Sarah et Agar. La situation, l'attitude de Sarah vis-à-vis de Agar, qui paraît, a priori, comme nous allons le voir, pas très conforme aux midot et à la, et aux qualités de Sarah Imenu. Dans la paracha, Tlechera, au chapitre 16, il est dit, Vesarah eshet Avraham lo yaldalo. Ça fait 10 ans que Sarah et Avraham sont installés en Eretz Israël, et elle ne l'a pas enfanté, elle l'a pas conçu. Vela, Shivha, Mitzhi, Tushma, Agar. Et elle, Sarah, a une servante égyptienne du nom de Agar. À Sarah, dit Avraham, à ce moment-là, Inena, Asarania, Adonai, Miledet, voilà, Akadosh Baruch Hu a empêché Atsar, il m'empêche, il retient le fait que je puisse enfanter. Bona et Shifati, de grâce, viens, s'il te plaît, viens, prends ma servante. Peut-être, oulai, ibane mimena, peut-être que je me bâtirai, je me construirai d'elle. Grâce à cette action, nous allons voir comment. Vaishma Avraham l'école Sarai. Et de suite, Avraham a entendu la voix de Sarai. Immédiatement. Que signifie ici qu'elle va se construire? Il y a deux manières de comprendre. Ou bien nous disons que l'enfant que va enfanter concevoir et enfanter Agar sera adopté par Sarah. Donc elle-même n'aura pas un enfant, mais elle va l'adopter, elle va le grandir. Elle n'a pas les joies de l'enfantement, mais elle aura peut-être la joie de s'occuper d'un enfant et de la maternité, d'avoir la possibilité d'adopter cet enfant. C'est une possibilité. Ou bien nous pouvons dire différemment, totalement différemment. Cette annulation, nous devons comprendre quel est le sens, quel est le statut d'une servante. Dans la Gemara, il est rapporté que la servante n'a pas de statut. L'esclave, le Eved Kenaani n'a pas de statut. Il est rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la maîtresse de maison n'a pas aucune honte devant, elle agit devant la servante comme si elle n'existait pas. Elle est transparente. Donc cette personne qui est esclave, servante ici en l'occurrence, n'a aucun statut. Elle n'a rien. Comme nous allons le voir. Et Sarah va prendre cette servante qui n'a aucun statut, qui n'a aucune position sociale, qui n'est rien en elle-même, et va la franchir, et en plus, elle va lui donner une position. Quelle est la position qu'elle va lui donner? Celle d'être l'épouse d'Avraham. Donc nous devons comprendre que Avraham et Sarah accomplissent toute la Torah. Il est inconcevable, inadmissible, de dire qu'Avraham a pris une servante pour épouse. Donc, il s'agit bien que si on a une servante et qu'elle est affranchie, elle devient une femme juive à part entière. Ensuite, Avraham n'a pas de rapport, de relation intime avec une femme sans, en dehors du mariage. Donc, il y a choupa avec Kiddushin. Donc, cette femme-là, qui n'était rien, obtient un statut exceptionnel. D'être à la même position que Sarah Imenu. Sarah, qui s'appelle Iska, c'est Milachan, c'est un langage de noblesse. Donc, on prend quelqu'un qui n'est même pas un roturier, c'est un moins que rien, qui n'est rien, un esclave, et on lui donne la position d'être un prince, une princesse, une reine. Elle devient l'épouse de Avraham. Ça c'est la démarche que fait Sarah, et ça c'est un acte de contrition, d'annulation de soi total. Alors si on fait cet acte d'annulation de soi, alors à Kadosh Baruch Hu peut-être qu'il va octroyer à Sarah la possibilité d'elle-même engendrer, d'enfanter un enfant, de concevoir. En effet, Akadosh Baruch Hu a créé le monde Yesh Me'ayin. Il a créé quelque chose d'existant à partir de rien. Nous disons Aïn, c'est rien. En français, nous disons Ex Nihilo. Mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas de rien qu'il a construit le monde. Ce Aïn-là ne signifie pas le rien, le néant. Ici, il est impossible de dire que Akadosh Baruch Hu a créé de rien, puisqu'il a créé de lui. C'est lui qui existait avant. Donc il y avait lui avant, Hachem, Ribon HaOlamim. Et de lui, il a créé le monde. Pour ce faire, il s'est retiré, il s'est annulé. C'est le concept du secret de la rétractation. Ce que Rabbeinu Ahari qualifie de Tzimtzum. Et le Aïn, Aleph, s'écrit Aleph Yod Nun, fait référence aux trois sphirotes les plus hautes de la structure de la spiritualité. Le Aleph, la lettre Aleph fait référence à l'unique, à l'insondable, à l'Ufo Shel Olam, celui qui se tient au-dessus de ce monde. Le Yod fait référence à la sphira de Chochma. Donc le Aleph, le Keter, c'est la volonté d'octroyer la vie. La Chochma, c'est le comment cette vie-là va être octroyée. Et le Nun, c'est fait référence à la Bina, à l'intelligence, au discernement, au plan. Comment le monde, le plan de ce monde, comment, quand on a une idée pour la réaliser, il faut faire un plan. Ça, c'est la Bina. Donc ces trois sphirotes-là, ces trois concepts qui sont liés dans le mot Aïn, c'est le fameux rien, le fameux néant, fait référence en vérité à la spiritualité la plus haute. Et c'est de cette spiritualité la plus haute qui fait la place à l'autre que le monde va être créé. C'est comme ça que le système de la création. Quand on a un enfant, quand on n'a pas d'enfant, alors on est libre. On vit pour soi-même. Dès que l'enfant vient au monde, on est à son service. Donc on va annuler toutes ses volontés, ses ambitions, ses aspirations, ses désirs pour se mettre au service de cet enfant. C'est un joug sur les épaules et un souci au quotidien de chaque instant. Et même quand les enfants grandissent, on garde toujours le souci de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est le sens de la vie. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé la vie. Et c'est pour ça que la première mitzvah qui va être ordonnée à l'homme, c'est justement d'enfanter. Parce qu'à ce moment-là, on s'inscrit dans on adopte et on s'inscrit dans le système de la création. Le fameux Yesh Me'ayin. Il y a quelque chose du rien. C'est quand tu deviens toi-même au service de ce quelque chose que tu crées la vie. C'est le sens de Sarah. Sarah dit, peut-être que je me construirai à partir de cette action-là. Donc elle donne sa place pratiquement à une femme qui n'est rien, à un rien, à une femme qui n'a aucun statut, elle lui donne sa place. Et que se passe-t-il immédiatement? Il est dit, juste après, que Agar s'est tombée enceinte, elle a conçu. Agar, et donc Abraham a eu un rapport avec Agar, Vatahar, elle a conçu, et juste après, il y a marqué, Vatere Kiharata, elle vit qu'elle a conçu, Vatakel Gevirtam Be'ainea, sa maîtresse, elle a été méprisée à ses yeux. Rashi dit que dès le premier rapport, elle a conçu, et immédiatement après, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, Rashi dit, elle s'est dit, cette Sarah, sa personnalité profonde ne ressemble pas à ses apparences. Elle a l'impression, voilà, elle nous apparaît comme étant une grande sadéquette, mais en fait, elle n'a aucun mérite. Voilà que ça fait des années qu'elle est mariée avec Abraham, elle n'a pas d'enfant, on n'a pas le mérite d'avoir des enfants. Alors que moi, du premier rapport, j'ai enfanté. Donc, elle est déçue d'elle. Et elle le lui fait savoir. Et ça, Sarah ne le supporte pas a priori. Et elle se plaint, elle s'en plaint à Abraham. Et que dit-elle? Elle dit, va ton mère Sarah et Abraham, Hamasi Alecha. Elle m'a insulté, elle m'a injurié. J'ai donné moi ma servante en ton sein. Elle a vu qu'elle a conçu et je suis méprisé à ses yeux. Hachem, que Hachem juge entre toi et moi. Et Abraham dit à Sarah, ta servante, et de, voilà ta servante, je te la donne entre tes mains. Fais-en ce que tu fais, fais d'elle ce que tu veux. Sarah l'humilia, elle a servi, va t'amener à Sarah. Marqué qu'elle a servi, qu'elle a fait souffrir, elle a oppressé. Et il est dit après que Agar s'est sauvée. Va t'ivrar mi panéa, elle s'est sauvée. Alors elle est arrivée dans le désert, et là, l'ange la trouve dans le désert, près d'une source d'eau. Et elle lui dit que fais-tu ici, Agar, la servante de Sarah, d'où viens-tu, où vas-tu? Etc. Et elle dit, je fuis ma maîtresse. Et l'ange lui dit, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main, sois oppressé, accepte d'être sous sa gouvernance, sous son autorité, sous son oppression. Et après, il lui fait les brachot. Voyons, merla, malach, Hashem, harba, harbe, zarer, velo, isafer, merov. Tu auras une descendance multiple, nombreuse. Et on ne pourra pas compter. Voyons Merla Malach Hashem ina hara velat ben vekarat shemo Ishmael ki shama Adonai et onir. Il dit, tu l'appelleras cet enfant Ishmael parce que Hashem a entendu ta souffrance. Après, il lui dit, veouye pere Adam, etc. Donc il dit, après, il sera un homme violent, un homme sauvage, un homme de qui attaquera, etc. Alors elle est retournée, elle s'est mise dans cette position-là. Et elle a enfanté à Ishmaël à Abraham. Ça, c'est ce qui est dit à la paracha de Lech Lecha. Donc ici, il faut comprendre la souffrance. On dirait que Sarah réagit, regrette. Elle regrette d'avoir donné Agar à Abraham. C'est étonnant. Et elle réagit avec dureté. Elle a servi, etc. Nous allons retrouver à peu près la même réaction, la même problématique dans la paracha de Vayera. Qu'est-il dit là-bas? Après que Sarah ait accouché de Yitzhak, un peu plus tard, il est dit, donc Yitzhak a commencé à grandir, il est dit là quelque chose d'extraordinaire. Que Sarah a dit à Abraham, va terre Sarah et Ben Agar à Mitzrit, Asher el dale Avraham et Sarek. Sarah a vu l'enfant de Avraham, Ishmael, que Agar lui a enfanté, qu'il jouait. Il se moquait. Rashi rapporte que le mot Mesahek au nom de Chazal fait référence aux avérances les plus graves. L'idolâtrie, les relations interdites, le meurtre, etc. Va ton mère l'Avraham. Elle dit à Avraham, Sarah dit, Garesh, renvoie cette servante, bannis-la de ta maison, avec son fils. Kilo irash ben ama azot im beni mitzhak. C'est le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Yitzhak. Alors, Avraham, il est pas très content de cela. Vayera davar meot beni Avraham, alodot beno. Et la chose fut mauvaise, pas très bonne aux yeux d'Avraham, au sujet de son fils. Et c'est à ce moment-là qu'il est dit, voyons, mère Elohim et l'Abraham, Alira Be'enecha, il dit, il faut pas que tu ce soit mauvais au sujet de ton garçon et de ta servante. Tout ce que dit Sarah, fais tout ce que dit Sarah. Parce que ta descendance, qui Be'itzhak, qui karel et chazara, car c'est par Itzhak que tu seras appelé, que ta descendance sera appelée, que tu auras ikare les chazara. C'est-à-dire que ta descendance sera de Itzhak uniquement. Zara, c'est la descendance. Après, il rajoute un verset étonnant. Les gamet ben Ahama, les goyasimenu. Maintenant, cet enfant, le fils de cette servante, deviendra aussi, je le ferai, une nation. Pourquoi? Kizara Chaou, parce que lui aussi est ta descendance. Alors, il faudrait savoir. Si tu dis que, ki be Itzhak et karel et chazara, c'est uniquement Itzhak qui est ta descendance. Donc, c'est pas Ishmael. Et après, il dit, Ishmael aussi, je ne l'oublie pas, il sera une grande nation parce qu'il est ta descendance. Kizarachao. Étonnant. Donc, Avraham, que fait-il? Vayashkem Abraham Baboker. Avraham se lève de bon matin, il prend un pain et il prend une outre une cruche d'eau. Hemat Maim, c'est une outre. Il remplit une grosse bouteille, disons, d'eau, et il donne à Agar, et ils s'en vont. Et quand l'eau, la cruche, elle s'est vidée, l'eau de la cruche est épuisée, alors il se trouve sans, et Ishmaël est sur le point de mourir, et là se passe le fameux épisode où l'ange se dévoile, etc., la discussion entre Akadosh Baruch Hu et les anges du ciel. Est-ce que Ishmaël mérite à ce moment-là qu'on le sauve et qu'on lui fasse jaillir la source, etc. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, voilà, les anges disent à Dieu, voilà, dans le futur, ces enfants vont tuer les tiens. Alors il dit, maintenant, comment il est tzadik ou racha? S'il est tzadik, je le sauve. Donc de là on voit, et Ba'asher Usham, et de ce verset-là, de cet épisode-là, nous apprenons un principe fondamental de la prière de Rosh Hashanah et de Kippour, qu'on est jugé selon ce qu'on est à l'instant du jugement. Là aussi c'est étonnant. Si Sarah, alors Abraham il sait pertinemment la différence qu'il y a entre Ishmael et Yitzhak. Il s'est perdu, Akadosh Baruch Hu le lui a dit à plusieurs reprises. Pourquoi il n'éduque pas? Il ne reprend pas? Pourquoi garde-t-il a-t-il mal au cœur de renvoyer son fils? Et il le fait en fin de compte. Un acte assez cruel. Abraham, le symbole de l'hospitalité, de la générosité, de l'amour, de la bonté. Et à deux reprises, il a chassé. Il a mis Agar en situation difficile. Et comment réagit Sarah alors que c'est elle-même qui prend une femme qui lui donne sa place, et de suite, elle regrette. Quel est le sens de tout cela? Est-ce que nos pères, les Avot HaKedoshim, réagissent comme des êtres humains normaux, du commun? Ils réagissent avec des émotions, de l'égoïsme, de la réaction épidermique? Ou bien tout est réfléchi? Que chaque élément, chaque action qui serait comprise comme ou traduit par une émotion, une colère ou un égoïsme, est en fait la traduction d'un point il décèle une compréhension intellectuelle, une mida qui doit être réparée. C'est ce que nous allons voir. Comme nous l'avons dit, Agar est esclave. C'est une esclave. Chazal, Chachamim disent qu'elle est la fille de Pharaon. Et à quelle occasion, quand Abraham et Sarah descendent en Égypte au début de Parashat Lech Lecha, donc Abraham dit à Sarah, voilà, nous allons en Égypte, tu es très belle, alors dis que tu es ma sœur. Donc Pharaon prend Sarah et là il se passe des événements extraordinaires. Et quand Pharaon constate les miracles qui se produisent dans sa maison par le mérite, par la présence de Sarah, il dit, j'ai une fille, ma fille sera la servante. Je préfère que ma fille soit la servante de cette femme exceptionnelle, qu'elle soit une princesse dans ma maison. Quel est le sens d'esclave? Qui est d'abord celui qui a inventé le concept d'esclavage? Et quel est le sens du statut de l'esclave? Alors, celui qui a inventé ce concept, c'est Noah. À quelle occasion? Alors, Noah va, après la sortie de l'arche, il va planter une vigne, il va boire du vin et il va se saouler. C'est Ham qui va voir son père dans cette situation-là et va le mutiler. Chachamim disent, il va le mutiler. Pourquoi? Il s'est dit, nous sommes trois. Donc l'héritage, on a chacun un tiers du monde. Mais si mon père, il va avoir un quatrième enfant, nous aurons un quart. Donc un quart, c'est moins qu'un tiers. Donc il a empêché Noah d'avoir un quatrième enfant. Donc il a voulu s'approprier une part d'un enfant qui aurait pu naître. Et là, donc il a empêché Noah d'avoir un quatrième enfant. Que dit Noah quand il s'aperçoit de ce que lui a fait Ham? Il maudit son quatrième enfant. Et il dit que le quatrième enfant de Ham, Kenan, sera esclave. Donc, c'est-à-dire que le concept d'esclave, c'est celui qui est dans l'égoïsme. on va maudire Canaan et on va lui attribuer le statut d'esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui ne possède rien, il ne possède même pas de volonté. Il n'a même pas une volonté propre. Il ne possède rien. Son corps ne lui appartient pas. Il n'est rien. Il n'a aucune ambition propre. Aucune volonté propre. Et il n'agit en rien pour lui-même. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il possède, il le fait pour son maître. Ça, c'est la situation de l'esclave. On remarque, le Midrash dit, que lorsque les frères de Yosef vont le vendre en esclavage, il dit, le Midrash s'étonne, pourquoi l'avoir vendu comme esclave? Alors il dit, Karou Darko Shel Olam, le Midrash Rabba sur place dit, Karou Darko Shel Olam. Il dit, c'est comme ça l'habitude du monde. Tout celui qui veut prendre ce qui appartient à l'autre sera vendu comme esclave. Yosef est soupçonné de vouloir s'accaparer le pouvoir sur les frères, la royauté, le pouvoir, le droit d'aînesse, etc. Donc il veut s'accaparer ce qui appartient aux autres. Ils lui ont dit, tu crois que tu es le roi, tu veux être notre roi, tu ambitionnes des choses qui ne sont pas de ton ressort, qui ne t'appartiennent pas, qui sont aux autres, alors on te vend comme esclave. Ça, c'est la situation dans laquelle est Hagar est dans cette situation-là. Et c'est exactement la même démarche que Pharaon. Pharaon dit, c'est s'accaparer la grandeur. Il dit, je préfère que ma fille soit servante chez Sarah. Pourquoi? Parce que pour la grandeur du miracle. Pour se grandir. C'est-à-dire qu'il est prêt à consacrer sa fille dans la maison esclave, dans la maison de Sarah pour les miracles extraordinaires. Pour se grandir, lui, pour grandir sa fille. Donc tout ça, c'est par intérêt propre. C'est une dimension, une petite dimension de ce qu'on appelle Mochin de Katnout. Mochin de Katnout, c'est que la différence qu'il y a entre un adulte et un enfant. Un enfant conçoit le monde à travers lui-même. Le monde est à son service. Il est là pour prendre et se servir. C'est pour ça que l'enfant, quand il vient au monde, les poings sont fermés. Il leur dit, regardez, je viens prendre. Je viens me servir. Il n'y a que moi qui compte. Je suis au centre de ce monde. D'ailleurs, l'enfant, dans son berceau, quand il vient de naître, ou dans les premières années, les premiers mois de sa naissance, quand il crie, tout le monde est là à son service. Donc, il grandit en croyant et en voyant que les autres sont à son service. C'est le concept de l'esclave. C'est le concept de Ham, qui veut prendre, qui veut se servir, qui est là que pour lui-même. Quand on grandit, on voit que le monde est complexe et qu'on n'est pas là pour soi, on est là pour les autres. Le père est là pour la famille, etc. Donc on prend de la hauteur. Donc Sarah place Hagar dans cette position-là. Elle la sort du statut de petitesse, de réduction, de voir le monde à travers soi. C'est pour cela qu'elle est devenue esclave. Et lui donne une position de hauteur, noblesse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la création. C'est la complexité, il y a le projet divin. L'homme n'est là qu'au service du système. L'homme n'est là qu'au service du projet divin grandiose, extraordinaire, complexe et composé. Et que constate ça, hein? Que ça se produit pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, moi, je suis enceinte, donc j'ai du mérite. Toi, tu as pas. Donc c'est déjà un conflit. Elle a innové, elle a continué à être une servante. C'est pour cela que les versets vont continuer à qualifier Hagar de servante. Bien qu'elle ait été affranchie, qu'elle soit l'épouse à part entière de Abraham. Comme nous l'avons dit, il est inconcevable qu'Abraham ait eu un rapport, une union avec une femme qui lui est interdite. Donc elle est mariée, elle est sa femme, son épouse. Mais malgré tout, dans l'état d'esprit, dans sa conception des choses, elle continue à être ce qu'elle était auparavant. Elle n'a pas changé, elle n'a pas appris, elle n'a pas grandi, elle n'a pas pris de hauteur. La preuve cinglante, extraordinaire, que constate Sarah, c'est que, en vérité, elle aurait dû lui être immensément reconnaissante. Elle dit, Sarah, tu es la femme qui m'a donné ce statut. D'ailleurs, Rachid dit, sur le verset, quand il est dit que Vatikah Sarah est Hagar, elle a pris sa servante, Rachid dit, elle a convaincu, elle lui a expliqué, Asher, heureux sois-tu de pouvoir avoir cette position d'être au service de cet homme exceptionnel qui est Abraham. Quel est le concept d'Abraham? C'est d'être au service de l'humanité. C'est d'être au service des autres. C'est tout le sens de la bonté. Abraham Avinu ne fait rien pour lui. Il fait tout pour les autres, pour Dieu. Comment? Partage, le don de soi, etc. Tout pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a aucune volonté propre, Abraham Avinu. La même chose pour Sarah. Donc ici, la réaction n'est pas une réaction épidermique, une réaction émotionnelle. Elle est une réaction intelligente, réfléchie. Et elle lui dit, Avraham Hamasi Alecha, regarde ce qu'elle fait. Le reproche qui est fait dans les Chazal à Avraham, c'est de ne pas avoir agi dans l'éducation d'Ishmaël, dans l'éducation de Hagar. Donc Hagar restera, à partir de ce moment-là, Hagar restera une esclave, dans le concept d'esclave. Elle est libre, elle est une femme à part entière, etc., mais elle restera dans ce concept. Elle ne se sort pas du concept de Mohin de Katnout. Elle ne peut pas rentrer dans les Mohin de Gadlout, elle ne peut pas rentrer dans la grandeur, dans la hauteur. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le Yitzhak et Ishmael. Ishmael reste dans la réduction, alors que Yitzhak est dans et lui-même l'ensemble. On va constater qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux-mêmes sont le clan d'Israël. Quand Avraham prie, il prie Beminyan, il est lui-même Am Israël. Alors que quand Ishmaël prie, il est seulement lui-même, il est seulement un individu. Est-ce que tu es global ou tu es un individu? Réduit ou grandi? Grandi dans le sens d'être un ensemble, d'être soi-même la multitude. C'est le sens aussi de la Avera de Ishmaël. Pour ça qu'il est chassé. Le sens aussi qu'il faut comprendre que Sarah va asservir, va rabaisser, va la remettre à sa place. Elle va la remettre à sa place dans sa vérité. Il faut que Hagar comprenne quelle est la dimension dans laquelle elle était et dans laquelle est la dimension dans laquelle elle doit parvenir. Donc pour ça, il faut la remettre. Vataanea, elle a remis dans sa position celle qu'elle n'a pas changée. Alors constate la différence. Constate comprends que tu étais un individu inexistant et tu es devenu un ensemble, quelque chose de grandiose. Elle n'arrive pas à le faire. Elle le fera seulement à la fin. Il en va de même pour Ishmaël. Ishmaël, conteste, il agit, Messahek. Messahek, ça veut dire il est moqueur, il est agressif, il est frondeur, il est contre Abraham, il veut le pousser, mais Abraham ne tient pas compte. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un détail, qu'il va grandir, mais Sarah tranche et elle le chasse. Mais de toute façon, la décision de Sarah va tracer l'histoire, la destinée d'Israël. Avraham, dans son concept, il est de maintenir, de garder Ishmaël à côté de lui pour le dominer. Il vaut mieux qu'il soit à côté de moi que loin. Et Sarah va couper ce lien-là. Et Ishmaël va devenir une grande nation. C'est-à-dire, c'est par... En fait, il s'agit ici de la séparation totale du bien et du mal. Comme il est dit, la Kedusha et la Touma sont totalement séparés, alors que l'intention d'Abraham, c'était de dominer la Touma, de le garder à côté de lui, afin de l'améliorer et de qu'il soit le support au service de Yitzhak dans la démarche du service divin. Ça, c'est l'idée qui est mentionnée ici. Donc, au loin des Avot HaKedoshim, toute réaction épidermique, toute attitude d'intérêt personnel. Il s'agit véritablement de l'intérêt global du service divin. Comment le service d'Akadosh Baruch Hu va se faire en ce monde? Et on remarque qu'il y a une amélioration. c'est que lorsque Abraham va prendre Yitzhak pour l'emmener au sacrifice, là-bas, il est accompagné par deux accompagnateurs. Et il leur dit, restez ici à côté de l'âne. Gardez l'âne, nous allons aller, nous, au service. Chez vous, la chem poïma hamor. Voyons, mère Abraham et Naharaf, chez vous, la chem poïma hamor. Il dit à ses serviteurs, restez ici à côté de l'âne. Il y a deux serviteurs. Chachamim dit, il s'agit de Ishmael et il s'agit de Eliezer. C'est-à-dire qu'Ishmael est tout d'un coup, il est là. Oui, il est là. Et là, il est dans sa véritable position. C'est ce que Abraham voulait, qu'il soit là, à son service. Servir, d'être au service de la Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est pas lui qui l'a fait, c'est Yitzhak. C'est Abraham et Yitzhak qui font le service. Mais eux, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont maîtrisés. Eliezer, qui est Kenaan lui-même. Et Ishmaël, qui est aussi dans ce concept-là, le fils de la servante. Donc ça veut dire ici que la Torah, elle a montré la progression. Tout ça est réalisé par la volonté d'Abraham et l'idée, la kavana première, de réparer le monde, réparer son propre fils. Et il réagit. Il y a aussi encore un point à souligner. Pourquoi Abraham prie en faveur d'Ishmaël? Parce qu'Abraham, il lui est reconnaissant. Il sait que Isaac ne peut venir au monde que si Ishmaël l'a précédé. Comme il est dit, Rabotenu, nos maîtres disent que l'écorce apparaît avant le fruit. Alors, nos maîtres, Rashi ramène ça dans le Chumash, dans son Pirush, dans le Chumash, que Parashat Toldot, que les avots sont considérés comme étant un diamant. Alors Abraham, il est le premier, mais il est un diamant brut. Et il va donner naissance à un autre diamant. Alors quand on va creuser, on trouve une pierre qui est un diamant, on trouve pas le diamant, on trouve une pierre, un caillou normal. Mais à l'intérieur, il y a des scories, des saletés, il y a des choses négatives qui enveloppent le diamant. Donc il s'agit déjà de nettoyer le diamant de l'extérieur. C'est ce travail-là qui est accompli par la venue au monde de Ishmaël. Donc c'est comme si qu'on a coupé, on a enlevé l'enveloppe négative des scories en la personne d'Ishmaël. Le diamant qui graisse, il est propre en apparence, mais à l'intérieur de ce diamant-là, il y a encore des scories. Et ces scories-là qui sont à l'intérieur, c'est l'élimination. Donc le tailleur de diamant, il va enlever les saletés qui sont à l'intérieur de la pierre. Et ça, c'est l'élimination de Esav qui va sortir. Donc l'apparition de Yitzhak, elle n'est possible que si Ishmaël a précédé. Et ça, Abraham restera tout le temps reconnaissant à Ishmaël de lui avoir permis de donner naissance à Yitzhak. Et c'est ça ce qui est dit dans le verset. Kizarachaou, c'est ta descendance. Ki be Yitzhak ki kare lecha zara. Tu seras appelé descendance, tu auras... De quoi il s'agit du peuple d'Israël? Que Beitzhak, pas tout Yitzhak, une partie de Yitzhak. Cependant, n'oublions pas que Ishmaël reste ta descendance. C'est pas le même concept, ta descendance à toi. Alors, particulière, alors que Israël est la descendance, une nation. Et c'est Abraham n'apparaît pas, c'est qui Beitzhak, Yikare lecha zara, une descendance, la descendance. Global. Donc, il y a une différence qui est mentionnée ici, que Ishmaël est la descendance particulière d'Abraham, alors que Israël est la descendance générale de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font que le monde existe. La Torah, quand je vous le projet divin, c'est, comme disent les maîtres, Abraham a venu, il n'a pas été choisi pour lui-même, parce qu'il avait du mérite. Il n'est que celui qui va donner naissance à Israël. Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham, non pas pour lui-même, mais parce que de lui va descendre un Israël qui va recevoir la Torah. C'est la différence qu'il y a entre Noach et Abraham. Noach, avant que Dieu ne lui parle, la Torah nous explique pourquoi il a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il était Ish Tzadik Tamim. Donc voilà, on a un homme qui est injuste, un tzadik, etc. Pour ça qu'il a été choisi. Mais Abraham, il n'est pas dit. On ne nous dit pas que Abraham, il est un tzaddik, que Abraham, il est injuste. Non, Dieu lui parle directement, parce que c'est pas parce qu'il est tzadik qu'on le choisit. C'est parce que de lui va sortir qui Beitzhak et Karel et Chazara. C'est la finalité qui fait que Avraham a été choisi. La fin de l'histoire fait que Avraham a été choisi. Et ça, c'est le concept même de la projection vers la destinée finale, l'élimination du mal et le royaume établi de HaKadosh Baruch Hu en son monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.